Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine et que ça se passe bien pour vos projets. Cette semaine, on se retrouve pour une nouvelle table ronde. Ça faisait quand même assez longtemps qu'on en avait fait une, mais il y en a une en particulier que je veux faire depuis super longtemps et c'est pour parler de soumission, cette étape infernale que je déteste. Et je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler à plusieurs pour un peu recueillir les témoignages, voir comment ça se passe pour chacune de nous et voir aussi si on a des petits tips pour mieux vivre cette étape. Donc, j'ai invité Morgane, Caroline et Ludmila à venir en parler avec moi. Et puis, si vous ne me connaissez pas déjà, je suis Camilla Morel, autrice surtout d'imaginaire. Je suis aussi podcasteuse, évidemment. Je tiens un compte Instagram et je suis entrepreneuse. Donc, je vends des produits pour auteurs et je suis aussi rédactrice web, pardon. Donc, voilà pour ma petite présentation. C'est assez court, mais je laisse les filles se présenter par la suite.
Bonjour, moi je m'appelle Caroline Péfer. Donc, dans la vie réelle, je suis professeure d'histoire géo. Et dans mon autre vie, je fais vidéos sur ma chaîne YouTube où je parle de mon métier. Je tiens un podcast qui s'appelle Délivrer des mots. Pas délivrer des mots comme quand on est délivré de ses souffrances, mais délivre et des mots, même si ça peut aller ensemble aussi. Et je suis également autrice de romans. À la base, j'écris de l'imaginaire, mais les romans que j'ai publiés pour le moment en maison d'édition sont des romans historiques. Voilà. Donc j'ai publié deux romans historiques aux éditions City sur la Seconde Guerre mondiale et un autre qui est une romance historique qui vient de paraître vendredi dernier chez Imaginary Edge et qui s'appelle Toi, moi et l'Antarctique. Voilà. Après, du coup, tu avais demandé dans mes aspirations, pardon, en tant que du coup autrice. Donc, ce que je rêverais de pouvoir faire avec l'écriture, ce serait surtout de réussir à publier un roman dans le genre que je préfère, donc dans la fantasy, dans l'imaginaire, et surtout à destination d'un public qui serait plutôt axé jeunesse, young adulte. Voilà, parce que pour le moment, les romans que j'ai réussi à publier sont des romans plutôt adultes liés à l'histoire. Donc voilà, ce serait plutôt être dans de la fantasy. Voilà.
Ok, oui, c'est vrai, tu as raison que j'aimerais effectivement que vous disiez vos aspirations, vos buts, espoirs avec l'écriture en même temps de la présentation.
Donc, j'imagine que c'est à moi. Et bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Ludmila. Et donc, je suis présente sur ce podcast parce que moi aussi, j'écris sans surprise et j'ai un compte Instagram qui s'appelle Ludmila Écrit. J'écris essentiellement de la fantasy et du contemporain. D'une manière générale, je suis une lectrice assez hétéroclite, donc ça se retrouve aussi dans mes écrits et dans mon imaginaire. Et donc, au niveau de mes aspirations, évidemment, ma principale aspiration, ce serait d'être publiée, tout simplement. C'est aussi pour ça que je suis présente sur ce podcast, parce que c'est encore au statut d'aspiration. Et en fait, du manière plus générale, mon but, c'est d'avoir un rapport professionnel à l'écriture et de pouvoir pouvoir vivre au moins en partie de mon écriture. Et j'en profite aussi pour féliciter Caroline pour la sortie de Toi, moi et l'Antarctique, quand même. C'est pas rien.
Merci, c'est gentil.
Hello, du coup, moi c'est Morgane Luc. Je suis aussi, sans grande surprise, autrice et notamment autrice de l'imaginaire. J'ai autopublié mon premier livre en février 2023, donc ça fait genre tout juste un an. C'est assez fou, le temps passe très vite. Et à l'heure actuelle, je suis un peu en train de me... on va dire, genre, est-ce qu'on peut dire reconvertir ? Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais je suis un peu en train de marcher un chemin différent de l'auto-édition parce que je me suis rendu compte que c'était pas trop ce qui me faisait vibrer. Donc j'aspire un peu à pouvoir aller du côté de l'édition traditionnelle, pouvoir diffuser aussi mes œuvres un petit peu plus largement que ce que j'ai réussi à faire maintenant en auto-édition. Et je suis aussi podcasteuse littéraire, ce que j'oublie de le dire à chaque fois, mais c'est un vrai truc. J'ai un podcast qui s'appelle Confidence d'écriture où on papote un peu de coulisses d'écriture, de processus d'écriture, tout ça. Donc Voilà, voilà.
Ok, super. Merci pour vos présentations, les filles. Deuxième question que je voulais vous poser, c'est quoi en fait votre parcours avec les soumissions? Combien de romans vous avez soumis? Depuis quand vous soumettez? Est-ce que vous avez eu beaucoup de réponses? Tout ça.
Mon parcours avec les soumissions. Alors moi, j'ai écrit quand même beaucoup de manuscrits, enfin de tapuscrits en fait, faut changer le terme, parce que j'en ai écrit plus d'une cinquantaine, hein, donc de romans, donc ça fait beaucoup de romans que j'ai pu envoyer en maison d'édition. Je ne les ai pas tous envoyés, hein. Il y en a certains, je considère qu'ils ne sont pas spécialement assez qualitatifs pour ça, mais j'en ai quand même envoyé, on va dire, une trentaine sur l'ensemble. J'avais commencé à envoyer à partir de fin 2019, vraiment à partir de 2020, quand je me suis remis à l'écriture, parce que j'avais eu une grosse partie pendant mes études où j'écrivais plus. Et j'ai eu un premier retour positif pour un témoignage que j'avais écrit, qui est dont je n'ai pas parlé d'ailleurs, parce que j'en parle pas spécialement en général, mais donc mon premier livre publié, c'était un témoignage en fait sur les troubles du comportement alimentaire, puisque j'ai été anorexique pendant 10 ans. Et suite à ça, en fait, cette même maison d'édition m'a proposé j'avais réenvoyé des romans parce qu'ils avaient une collection historique et donc du coup m'a publié des romans en histoire. Après c'est cette maison d'édition est avant tout pour adultes et donc n'était pas dans la catégorie des romans, des autres romans que j'écrivais. Donc je me suis mise à envoyer des mails. Des mails dans le vent. Au départ un petit peu, alors je vais pas dire au hasard parce que je ciblais quand même les maisons d'édition en fonction des genres que j'écrivais ou en fonction de la tranche d'âge, mais je ratissais large, on va dire. Donc j'ai reçu combien de refus, ça serait compliqué à quantifier, bien que j'ai un tableau, mais je supprime un peu au fur et à mesure parce que maintenant je crois que je ne compte plus tout simplement. Je pense qu'au bas mot, j'ai dû quand même recevoir une bonne centaine de refus. Sachant que parmi la centaine de refus, je classe parmi ça, je mets pas ceux que j'ai jamais reçus parce que bon voilà, mais j'ai eu énormément de vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Pour certains romans que j'ai reproposés ensuite, des fois parfois à la même maison, ou cette fois-ci, ça rentrait dans la ligne éditoriale. Enfin bon, ça c'était très, ça me faisait rire en fait à la fin. Après, j'ai surtout reçu plus on va dire de négatifs que de positifs, bien que j'ai quand même reçu des réponses positives. Parmi les réponses positives, bon, il y a eu celui pour le roman qui vient d'être publié là actuellement, mais j'en avais eu aussi pour certains romans dont j'ai refusé les propositions parce que je trouvais que le réseau de distribution, quand c'était essentiellement Amazon, me satisfaisait pas complètement. Voilà, mais sinon c'est plus des refus, mais plus des refus type, hein, de malgré la qualité de votre manuscrit, vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale. Voilà. Je m'en suis venue à me dire que j'allais me le faire tatouer sur le bras. Et ce serait très bien. Voilà.
À chaque fois qu'on parle de soumission, et d'ailleurs quand tu as invité Caroline sur le podcast, Camilla, je me suis dit qu'elle serait la meilleure personne pour en parler parce que vraiment. Enfin, je ne sais pas si quelqu'un détient une palme aussi impressionnante que toi sur ce sujet. mais du coup, à titre personnel, donc j'ai soumis... j'étais assez surprise moi-même en comptant, mais j'en ai soumis 3,5, disons. Donc 3 que j'ai soumis avec le manuscrit à 100%. Et plus récemment, j'ai aussi soumis les premiers chapitres de la fantaisie sur laquelle je travaille en ce moment. Parce que... peut-être que les gens qui nous écoutent le savent, mais il y a plein de soumissions ouvertes en ce moment pour des maisons d'édition qui publient de la fantasy, notamment le concours Big Bang là, qui s'est clôturé récemment, et donc ils demandaient d'envoyer les premiers chapitres, ceux que j'ai faits, donc je considère que c'est un demi-envoi. Et sinon, j'ai essentiellement envoyé mes contemporains, et mes tout premiers envois datent de décembre 2021, donc ça fait un peu plus de 2 ans là. Et moi aussi, j'ai essentiellement reçu des retours négatifs formatés. Mais la toute première réponse que j'avais reçue, c'était une réponse positive. Enfin, c'était un oui, mais. Et finalement, ça ne s'était pas fait parce que justement, on n'avait pas trouvé d'entente, de terrain d'entente avec la maison d'édition. Mais du coup, mon parcours, mon aventure avec l'édition partait plutôt bien. C'est après que ça s'est cassé la gueule. Et voilà. Et sinon, j'ai eu quelques retours argumentés aussi, et c'était essentiellement dans le cadre de soumission que j'avais faite en connaissant personnellement l'éditrice. Donc ça aide quand même beaucoup pour recevoir des retours argumentés. Voilà.
Ok, j'avais aucune idée que tu avais reçu un oui mais. T'as eu le courage de dire non même si t'avais eu un oui?
Alors, ça aurait été bien si ça avait été dans ce sens-là.
Ok.
Mais oui, du coup, en fait, c'était une maison d'édition qui m'avait proposé un contrat à condition que je change quelques scènes pour les refaire, enfin pour les faire plus correspondre à leur ligne éditoriale, grosso modo. Et moi, j'avais dit que j'étais prête à faire des changements, mais qu'il y avait des choses que je voulais continuer à défendre parce que pour moi, c'était important de garder certains éléments tels quels. Ce à quoi l'éditrice m'avait répondu que ça matcherait pas. Et donc, moi, j'avais pas dit non. Moi, j'avais dit oui, j'étais partante. Mais,
okay.
Mais du coup, elle m'a dit que, en gros, si je changeais pas exactement comme elle voulait, c'était mort.
Ok, ben c'est quand même tout à ton honneur d'avoir gardé ta vision créative et de pas avoir dénaturé ton roman.
C'est très gentil à toi de me dire ça.
Moi, non, mais toujours ça fou qu'on demande à quelqu'un de changer des scènes. Enfin, de retravailler, je veux bien, mais de changer, je trouve ça fou, en fait.
Bah, ça m'avait surprise aussi sur le moment, hein, et je ne m'attendais pas à ce que ce soit... En fait, je ne l'avais pas vraiment identifié comme étant un oui-mais, donc je m'étais dit que j'avais du jeu, en fait, et que je pouvais négocier ces changements de scène.
Okay.
Et, et bah, en fait, il s'est avéré que non. Mais c'était intéressant comme expérience, forcément. Voilà. Mais
ouais, j'imagine que... Ça t'a appris des choses.
Oui, et puis ça m'a aussi... En vrai, ça m'a fait plaisir à l'ego aussi quand même. Enfin, voilà, que ma première réponse, ce soit un oui, mais c'était quand même chouette.
Mm-hmm.
Voilà. Mais peut-être que Morgane veut parler de ses soumissions.
Oui, vas-y Morgane.
Bah, en fait, je vais te repiquer ta phrase, Ludmila, si c'est OK, parce que t'as dit genre, c'était bien parti et après, ça s'est un peu cassé la gueule. Je trouve ça très drôle parce que je pense que j'ai un peu envie de le redire aussi. Pour le coup, j'ai soumis que un seul roman à l'édition traditionnelle et c'était un peu étrange parce que jusqu'à là, moi, j'avais taffé en maison d'édition et du coup, d'un coup, je recevais pas le dossier, c'est moi qui l'envoyais. Donc déjà, genre, il y a eu un mindfuck un peu à ce niveau-là. Ça m'a un peu, je sais pas, c'était vraiment étrange de passer de l'autre côté du truc. Et la première soumission que j'ai faite, j'ai reçu un message genre, mais vraiment adorable et incroyable de l'éditrice et du comité de lecture qui m'ont dit qu'ils avaient adoré le bouquin mais que comme c'était de la science-fiction, ça leur conviendrait pas et qu'ils le publieraient pas. Et après ça, ça a empiré. Je me suis fait ghoster plusieurs fois, ce qui en soi arrive, même si moi je le prends mal et que je l'ai un peu mal vécu sur le coup. C'est, voilà, c'est mon ego qui est rentré un peu dans l'histoire. Mais je me suis fait ghoster plusieurs fois, j'ai reçu des noms assez classiques comme ça, Caroline, en mode « le livre est bien, mais en fait il correspond pas du tout à ce qu'on veut publier », c'est un peu ce qu'on m'a dit. Donc c'est ok aussi, enfin je le prends pas pour moi pour le coup. Mais voilà, c'était bien parti, parce que j'ai eu un premier nom qui était vraiment bien, et après j'ai quasiment pas eu de réponse quoi. Donc c'est pas évident à gérer, je pense mentalement je l'ai un peu pas hyper bien vécu.
Ouais, c'est dur les soumissions. Je pense que... C'est rare qu'on vit super bien les refus et les ghostages, comme tu dis. De mon côté, comme vous le savez, si vous suivez le podcast et mon Instagram, j'ai seulement soumis un roman, donc mon premier roman. Et pour l'instant, en fait, j'ai soumis à 12 endroits, je crois, au total. Et pour l'instant, j'ai 3 noms. Donc, un nom argumenté de maison d'édition, un nom à cause de la taille où la ME n'a pas lu le roman, et un autre nom à cause de la taille. Donc, voilà. Ensuite, je voulais savoir si vous aviez des anecdotes de soumission, autant positives que négatives, si vous avez quelque chose que vous aimeriez raconter.
Alors, j'ai fouillé, farfouillé, réfléchi pour répondre à cette question. Non, alors il y en a deux. Il y en a une qui n'est pas spécialement bien et une qui me fait rire, en fait. C'est ma petite blague à moi-même. J'envoie spontanément mes romans à Gallimard, voilà. J'envoie à Gallimard sans penser que Gallimard me dira oui un jour. Hein. Voilà, pour moi, Gallimard, c'est, je sais pas, c'est ma petite blague en fait. J'envoie à chaque fois mes manuscrits et pendant très longtemps, j'étais persuadée du coup qu'à force d'envoyer des manuscrits, enfin, vu qu'on me renvoyait toujours le même message, que c'était des robots en fait qui devaient travailler chez Gallimard. Et jusqu'au jour où j'ai reçu en fait un refus détaillé avec les raisons pour lesquelles ils refusaient mon roman, tout en expliquant que le roman leur avait plu. Donc ce jour-là, j'ai découvert qu'il y avait des humains chez Gallimard, ce qui m'a presque choquée en fait. Finalement, je trouvais ça moins choquant d'avoir des robots qui me parlaient. Donc voilà, donc je continue toujours à envoyer chez Gallimard pour ma petite blague, voilà, je suis contente, j'ai eu le 40e refus de Gallimard, ça m'a fait plaisir, je l'ai affiché, j'ai plein de mails de Gallimard. Donc ça, c'était plus pour m'amuser. Mais sinon, sorti de ça, au niveau des anecdotes qui sont plus dans le négatif, j'ai reçu un retour très négatif de la part d'une maison d'édition récemment, d'un texte que j'ai écrit à quatre mains avec ma meilleure amie. Et en fait, ce retour m'a quand même pas mal perturbée. Alors, en général, je m'arrête pas trop sur les retours, parce que sinon ça tourne longtemps dans la tête, on se dit qu'on est la pire personne du monde et que notre texte ne sert à rien. Mais celui-là m'a... Alors, il m'a un peu attristée, mais il m'a surtout énervée, parce que c'était un retour dans lequel, en gros, donc limite, si je traduisais le mail, pour vous le résumer, parce que le mail était vraiment très long... j'étais homophobe, anti-vegan et sexiste. Donc j'ai appris que j'étais ces trois choses à la fois, en étant un petit peu surprise moi-même, parce que j'écris des romans où il y a souvent des personnages queer, je suis issue d'une famille homoparentale, donc j'avoue que me faire traiter d'homophobe, je ne l'avais pas encore vécu. Et pareil, je suis végétarienne, donc au niveau de tout ce qui est normalement les animaux, j'étais un petit peu sceptique sur les retours, et en fait, surtout, la maison d'édition en question donc a pris notre texte, des phrases totalement au hasard, et les ont complètement sorties de leur contexte. Donc effectivement, sorties du contexte, on avait l'impression que, bah, oui, certaines phrases pouvaient être dans l'interprétation qu'on en faisait, possiblement sexiste, mais en même temps, elles étaient totalement sorties d'un contexte, sachant que le roman, il y a effectivement des personnages qui pouvaient tenir des propos discriminatoires, mais qui en fait étaient dénoncés au cours du roman. Donc si on s'attardait que sur des phrases prises au hasard, le roman n'avait plus aucun sens. Et en fait, ce message m'a pas mal perturbée, et me perturbe encore, parce que je me suis dit, mais quel intérêt en fait avait l'éditeur de m'envoyer ce message? Genre, il aurait pu très bien s'arrêter sur le roman ne me correspond pas, point. Là, j'avais l'impression que c'était dans le but d'être volontairement méchant et blessant. Et j'ai pas compris, parce que je sais pas s'il y a un truc à comprendre, mais en plus moi je suis professeur, alors je sais qu'il y a des professeurs qui adorent dominer les élèves, les détruire psychologiquement et ce qu'on veut, bon, moi j'en ai jamais rencontré dans mon parcours d'élève et parmi mes collègues, mais je me doute qu'il y a des enseignants qui sont comme ça, et en fait moi je sais que s'il y a bien une chose que je m'étais juré de ne jamais faire, c'était de dire des critiques virulentes et méchantes à des enfants pour pas justement ruiner leur confiance en eux, ou je sais pas, enfin... Et là, je me suis dit, en regardant ce mail, mais quel était l'objectif de la personne derrière, en fait? Est-ce que c'était juste d'être méchant pour être méchant? Voilà, et je sais qu'il ne faut pas que je m'attarde sur ce mail, mais en même temps, ce mail me revient quand même très souvent à l'esprit. Voilà, mes deux anecdotes à vous partager.
Ouais, tu m'en avais parlé de cette deuxième expérience-là qui est plus négative, et j'avoue que je suis quand même un peu choquée. C'est un peu comme si les personnes qui ont lu ton roman n'ont pas compris que des personnages... ont des identités propres et qui ne représentent pas vraiment l'autrice, en fait. C'est comme normal qu'il y ait des personnages méchants ou antagonistes dans un roman qui, justement, servent à dénoncer des comportements négatifs.
Oui, et puis pour dénoncer quelque chose, encore faut-il l'annoncer. Donc, c'était sorti totalement au hasard, les phrases, enfin... Vraiment, j'ai toujours pas compris ce mail-là. Hein. Voilà. Donc
c'est spécial comme expérience.
C'était particulier, oui.
Et j'ai l'impression que, tu sais, nous, les auteurs, on a beaucoup... on entend beaucoup comment on devrait se comporter, comment on devrait être, ce qu'on devrait faire, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Mais j'ai l'impression que de l'autre côté du mur, ça devrait aussi être... en fait, les gens devraient aussi faire plus attention à comment ils se comportent avec les auteurs, parce que ça peut nous faire vraiment mal. Et je comprends que ce mail-là te revient constamment en tête, parce que ce genre d'expérience, c'est difficile à vivre. Puis ça reste longtemps en nous.
Oui, puis autant je peux comprendre, tu vois, le côté les éditeurs n'ont pas le temps de te répondre parce qu'ils sont débordés. Mais là, du coup, c'est on prend le temps de te répondre pour être méchant. Donc là, je comprends pas.
C'est spécial.
Je trouve ça en plus hyper difficile de faire un mail accusateur en mode genre vous êtes ceci, vous êtes comme cela, vous êtes une mauvaise personne. Enfin, moi je fais de la lecture sensible bénévolement et professionnellement. Et je pars toujours du principe que genre les gens n'ont pas de mauvaises intentions, ils sont juste hyper maladroits. Et donc en fait, là, si à la limite l'éditoriste avait tiqué sur des trucs dans ton texte et ne les avait pas compris, vu que t'as beaucoup de personnages queer et tout, genre, enfin la personne aurait juste pu dire, je pense qu'on ne se comprend pas très bien, je trouve que certaines de vos formulations sont maladroites, plutôt que de te dire, vous êtes un monstre, tu vois, enfin genre ça se fait pas en
tout cas. Tout à fait, il y a des manières de le dire en fait, c'est toujours pareil, une critique est acceptable, mais il y a des manières de formuler les choses quand même. Enfin, c'est...
Bah, il y a un minimum de respect à avoir, quoi, en fait, pour l'humain en face, quoi. Enfin, je sais pas.
C'est ça.
Dans tous les sens.
Ouais.
Alors du coup, mon anecdote va certainement être un peu fade par rapport au partage que tu as fait. En plus, on en avait déjà, mais on en avait déjà discuté et je comprends complètement que ça tourne encore dans ta tête. Enfin, il y a de quoi cogiter, quoi. Et du coup, mon anecdote va être beaucoup plus anecdotique, justement. Je voulais vous parler de la dernière réponse de maison d'édition que j'ai reçue. C'était une réponse que je n'attendais plus. C'était la fameuse réponse qui arrive au bout de 18 mois, vous savez. Parce que parfois, il y a des maisons d'édition qui disent « Nous vous répondrons dans un délai entre 6 et 18 mois. » Et donc, il y a vraiment eu cette limite des 18 mois atteinte. Et il s'agit d'une maison d'édition qui passe par la plateforme Edit et Nous. Je ne sais pas si vous connaissez. Et déjà, ça m'avait beaucoup surprise qu'il y ait une maison d'édition qui n'ait pas de mail dédié au manuscrit, mais qui passe par une plateforme. Donc, je ne citerai pas la maison d'édition en question, mais voilà, ça m'avait déjà un petit peu déroutée. Et du coup, vu la réponse très formatée que j'ai reçue, qui était sans surprise, donc un non, ça confirme le fait que cette maison donne l'impression de n'en avoir rien à faire des manuscrits qu'elle reçoit. En tout cas, moi, j'étais au fond de mon lit, je venais de me réveiller, j'ai vu ce mail, j'ai fait « Oh !» et je suis passée à autre chose. Voilà, c'était ça mon anecdote avec une soumission.
En même temps, c'est vrai qu'il y en a certaines, on ne les attend plus. Hein. Au bout de 18 mois,
c'est... 18 mois.
c'était exactement ce que je me suis dit, vraiment, genre... voilà, il y a quelqu'un qui a vraiment osé répondre au bout de 18 mois.
Ouais, c'est un peu long, mais je comprends que c'était un peu, que c'était moins, pas important, mais que ça t'a paru moins important aussi longtemps après.
C'est sûr, c'est un roman que ça fait tellement longtemps que je l'ai écrit que maintenant j'en fais même pas la promotion sur Instagram parce que j'aurais même plus envie de le voir publié, quoi, mais enfin, en fait, j'ai des soumissions qui traînent encore quelque part et je me suis dit, plus personne va me répondre, parce que c'était il y a super longtemps et en fait, si.
Mais j'avais vu il y a quelques temps sur un TikTok qu'il y a une maison d'édition qui a répondu non à un ou une autrice 5 ans plus tard. Et à ce stade, t'es un peu là, en fait, me réponds juste pas, en fait. Parce que si c'est en plus pour me dire non, vraiment, enfin, économise-toi du temps dans ta vie, quoi.
C'est Bragelonne, ils ont des délais de 2 ans, je crois. Mais,
c'était Bragelonne à l'époque.
Voilà.
Désolée Bragelonne, vraiment, mais on sait que c'est compliqué, hein, mais si c'est pour dire non au bout de 5 ans, franchement, épargnez-vous cette peine.
Oui, effectivement.
En vrai, moi, j'ai pas d'anecdote. Je pense que j'ai pas d'anecdote, en vrai, genre, par rapport aux soumissions. Juste la dernière fois, j'ai rêvé qu'une maison d'édition m'avait dit non. Et en me levant, je l'ai un peu intégré, en mode, tant pis, ce sera pas chez eux. Et en fait, je me suis rendu compte l'autre jour, en regardant mon tableau de soumission, qu'ils m'ont pas du tout dit non, ils m'ont juste pas encore répondu, parce que leur délai, c'est 6 mois, et que j'ai envoyé en janvier. Donc je suis là, écoutez, pourquoi pas.
C'est vrai que des fois, les rêves, ils nous paraissent vraiment réalistes et on a l'impression que c'est la vraie vie.
Complètement. Moi, ça m'arrive assez régulièrement. Et du coup, des fois, j'intègre des choses dans ma vie qui se sont pas du tout passées. Genre.
C'est pas très drôle comme anecdote.
De mon côté, c'est possible que je retire ma propre réponse si je me rends compte qu'il vaut mieux que j'en parle pas ou quoi que ce soit. Mais récemment, j'ai eu un mail de quelqu'un qui me disait qu'on allait se rencontrer, un éditeur, pour parler, je cite, de correction éditoriale autour de la Traverse Rêve et d'une éventuelle publication pour le titre. Et on s'est rencontrés en vrai. Et finalement, c'était un non. Donc, j'ai eu 3 semaines d'espoir, étant donné les paroles qui étaient utilisées dans le mail. Donc, je considère que c'est une anecdote plutôt négative. Mais voilà, c'est ça mon anecdote.
Vraiment, je m'en remets pas de ça.
Ouais, moi non plus. Hein.
C'était horrible, vraiment, tes stories, là, quand t'en parlais, j'avais trop le seum, quoi.
C'est littéralement le pire nom qu'on puisse recevoir, en fait. Genre,
ouais, bah, si je tu fais de l'espoir à quelqu'un pour, en fait, le lui retirer. Je comprends pas non plus, ça. Je vois pas l'intérêt de consacrer du temps à quelqu'un si c'est pour lui dire non. Ou, enfin, ça n'a pas...
Ouais, puis je précise que j'ai pas eu de piste de retravail non plus. Mais non, bref, je me suis juste dit, honnêtement, il valait mieux me dire non par mail rendu là. C'est, ça valait pas le coup de me faire ça. Tu sais, c'est comme rendre un non aussi douloureux, c'est pas nécessaire, mais bon.
Oui, ben c'est ça. C'est surtout qu'en fait, je pense que certaines personnes ne mesurent pas l'impact que les mots qu'ils ont peuvent avoir sur, après, la personne. Et ça, je trouve que... Ouais. Ça, c'est grave. Hein, mais après, c'est dans toute profession confondue. Hein. Là, on parle de l'édition, mais ça peut être la même chose en médecine, ça peut être la même chose avec des enseignants, ça peut être la même chose... Enfin, il y a des gens, quand ils disent « Mais moi, je dis ce que je pense », ben, oui, certes, mais enfin, mais les formes, quand même. Genre, oui. Il y a quelqu'un derrière, c'est...
Je suis d'accord. Ensuite, je voulais savoir c'est quoi votre, ben, quel a été votre rapport à l'étape des soumissions plutôt, et est-ce qu'il y a eu une évolution, est-ce que c'est resté relativement échangé?
Non, moi il y a eu une grosse évolution dans le rapport à ça. D'ailleurs, je rigole parce qu'au moment où on était en train d'enregistrer, je viens de recevoir un mail d'une maison d'édition qui me dit « Nous envoyons votre manuscrit en comité de lecture ». Je lui ai dit, ah, oh là là. Ça tombe à pic. Merci, madame.
Bravo.
Alors, du coup, c'est bon. Alors, je vais rebondir sur ça sans donner le nom de la maison d'édition, mais c'est parce que justement, ça fait un bon écho avec l'évolution du rapport en question. Parce qu'au départ, je disais que j'envoyais vraiment un petit peu, enfin, je ratissais large, quoi, quand j'envoyais à des maisons d'édition. Je vais me reprendre, mais. J'en avais un petit peu marre du « vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale ». Parce que pour avoir été, pour être quelqu'un de très scolaire, moi j'ai besoin d'une justification. On peut me dire non, il n'y a pas de problème, mais j'ai besoin de comprendre ce que j'ai fait de mal. Jusqu'à ce que je reçoive du coup des refus argumentés. Et là je me suis dit, non en fait, j'aimais mieux le « vous ne correspondez pas à la ligne éditoriale ». Et en fait c'est surtout que je me suis rendu compte que les refus argumentés peuvent être certes, alors, ça dépend comment ils sont dits. J'en ai reçu deux où j'ai trouvé ça très pertinent. J'ai reçu ce fameux où je n'ai pas trop compris. Et j'en ai reçu surtout certains où je me suis rendu compte que, il y a une énorme part de subjectivité. Donc, au final, même si il y a des choses qui peuvent être reprises sur un manuscrit, il y a, en fait, finalement, un nom... Bon, sauf quand la personne est volontairement méchante derrière, mais sinon, un non, généralement, c'est pas forcément que le texte est mauvais, ça peut être que ça correspond pas au bon moment, ça peut être que le planning est déjà complet, ça peut être... Voilà, donc, ça a un peu changé dans le rapport aussi, parce que je me suis mise à fréquenter de plus en plus de salons, de rencontrer de plus en plus de personnes, alors, à la fois grâce à Bookstagram, et parce que, j'en ai pas parlé lors de la présentation, mais j'ai des partenariats avec des maisons d'édition, et je fais du service presse, et notamment avec deux maisons d'édition avec qui je travaille assez régulièrement, et du coup j'ai rencontré les éditeurs, les éditrices du coup, c'était que des femmes d'ailleurs, et en fait au cours des conversations, bah, c'est vrai qu'on tisse des liens avec des personnes, la personne nous dit bah ok je veux bien que tu nous envoies un projet, un manuscrit, un machin, et du coup en fait c'est vrai que ça, enfin, alors j'ai pas eu de oui hein, suite à ces propositions et ces d'envois. Mais en fait, ça met un visage sur une personne, et ce qui fait que quand on soumet du coup le manuscrit, on se dit pas juste j'envoie quelque chose dans le vide, on l'envoie à une personne. Et d'une certaine manière, comme la personne sait qui vous êtes, du coup, ben il y a peut-être un peu plus de forme aussi qui est formulée dans le mail de réponse, qu'il soit positive ou négative. Et surtout, ça, enfin, je trouve que du coup, ça, je trouve que j'ai pris un rapport un peu plus peut-être professionnel à la chose, à savoir que maintenant. J'envoie dans le but de me dire bah voilà c'est pas... enfin je m'exprime très mal aujourd'hui excusez-moi mais avant je pense que j'étais plus en amateur genre j'envoie n'importe comment et maintenant je réfléchis plus de manière ciblée à ce que je fais voilà en me disant que même si le texte fonctionne pas sur ce moment-là peut-être que ça aura tissé des liens aussi avec quelqu'un peut-être que ça aura ouvert d'autres portes enfin voilà donc c'était très fouillé ma réponse hein. Je m'en excuse hein.
Vas-y.
Je voulais déjà juste dire que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont commencé comme toi, en fait, genre en mode on y va à tâtons, et puis petit à petit, forcément, on gagne en expérience, même quand il s'agit d'une expérience de refus à répétition. Et du coup, de mon côté, je ne sais plus exactement comment j'avais chopé l'info qu'il fallait quand même faire un minimum attention à la ligne éditoriale, parce que j'ai commencé à soumettre à un moment où j'étais même pas encore inscrite sur Booksta. Enfin, je suivais quelques personnes, mais c'était vraiment au tout début. Et je me souviens que je passais mon temps en librairie à regarder dans les catégories des livres qui correspondaient à mon champ de, enfin, au genre du livre que j'avais écrit. Je regardais sur les dos des livres, les maisons d'édition et tout, et je prenais des notes. Enfin, je passais des heures, c'était un kiff en vrai, j'aimais bien ça. C'était un peu un move de nerd, mais j'aimais bien. Et sinon, du coup, mes premiers envois, je les ai faits aux grandes maisons d'édition en me disant que j'allais agir un peu en entonnoir, en mode commencer par les grandes, et puis sur un malentendu, ça passe. Et si jamais elles me disent non, bah, j'irai de plus en plus vers les plus petites maisons d'édition. Et au niveau de comment je me sentais, pour moi, c'était vraiment un moment hyper cérémonieux. Genre là, voilà, la première fois que j'ai envoyé un manuscrit en maison d'édition, vraiment, j'avais l'impression que j'accomplissais déjà un rêve en soi, parce que ça faisait tellement longtemps que j'écrivais. Et parce que du coup, pour l'anecdote, j'ai mis 12 ans à terminer un premier roman. Donc, et j'ai toujours écrit en me disant que je voulais être publiée. Donc, quand j'ai vraiment appuyé pour la première fois sur le bouton envoyer mon manuscrit, c'était incroyable. Alors qu'aujourd'hui, je vais moins cibler spécifiquement les grandes maisons d'édition. Je vais plus aller vers les maisons d'édition avec lesquelles j'ai un bon feeling précisément avec le manuscrit que je veux envoyer, parce que ça varie d'un manuscrit à un autre. Et puis, j'ai un rapport beaucoup plus détaché à la soumission, parce qu'en fait, je sais qu'une soumission ne veut pas dire une signature. Donc, à mes yeux, l'action d'envoyer le manuscrit a beaucoup moins de valeur, même si ça continue à être un moment un peu chouette, quoi.
Franchement, je bug sur cette question, parce que je comprends ce que tu veux dire par rapport au truc de... C'est quand même un truc un peu spécial d'envoyer, et je sais pas comment expliquer. Je pense que c'est normal de vouloir... commencer par les trucs qui nous font le plus envie, les maisons d'édition qui sont un peu dans notre tête d'affiche, et après de décanter, et en même temps, ça fait peur, parce que plus tu décantes et plus tu vas chez des gens avec qui t'as des fois plus tellement envie de travailler, mais tu as l'impression de plus avoir d'autres possibilités, vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, c'est un peu faux, parce que tu pars avec un a priori négatif dans ta tête, alors que rien n'est encore fait, tu vois, mais du coup, t'es déjà plus trop hypé à l'idée d'envoyer, je trouve ça un peu bizarre.
Ouais, je le vis un peu. Mes premiers envois, parce que j'ai fait comme plusieurs vagues, j'étais quand même excitée, j'étais contente, j'avais hâte. Mais maintenant, c'est plutôt dans un sens plus négatif, j'ai pas trop espoir. Donc, je le fais juste pour au cas où, mais j'y crois pas. Et c'est ça, c'est un peu dommage, mais bon.
Après, en même temps, effectivement, vu les récentes expériences que tu as eues, je pense que ça t'a pas non plus aidé. D'un autre côté, la dernière est très particulière quand même.
Oui.
Et je pense que... Enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. J'allais dire, je pense qu'il faut pas que tu t'attardes dessus, dans le sens, faut pas que ça conditionne tout le reste de tes soumissions. Maintenant, je sais bien que c'est très compliqué à passer au-delà, hein, donc encore une fois, là, c'est de la théorie. Hein. Mais dans tous les cas, je pense qu'il faut quand même que tu continues à défendre ton projet s'il te tient à cœur, si ça, encore une fois, j'aime pas le mot il faut, donc faudrait pas que je le dise, parce que ma psy dit toujours, il faut pas dire il faut. C'est difficile de formuler la phrase sans le mot il faut, mais il faudrait quand même que les soumissions que quand tu envoies t'es quand même un peu d'espoir derrière, parce que cette expérience négative en fait ne te fasse pas penser que jamais ton roman trouvera preneur, parce que tu vois t'as cité notamment le fait à plusieurs reprises que ton roman était très long et que c'était une des raisons qui avait été évoquée. Certes ton roman est très long, mais je veux dire un éditeur pourrait aussi te dire alors il est très long mais je le prends comme tel, ou il est très long et on le coupe en deux, alors peut-être que c'est pas ce que tu voudrais, tu vois, mais c'est en fait, à partir du moment où tu arrives, je pense, à trouver une maison d'édition, tout est envisageable derrière. Je pense à ça en pensant à Élise Giraudot. Au-delà du fait que ça mêlait fiction et autobiographie, son roman, une des choses qui lui était reprochée, c'était qu'il était trop long. Ouais. Et pour autant, elle a quand même fini par trouver quelqu'un derrière, parce qu'elle s'est accrochée quand même dans l'idée que non, elle couperait pas son roman, que c'était un one shot, qu'elle en ferait pas deux tomes, par exemple. Donc, et peut-être qu'effectivement, tu rentreras pas dans l'édition avec ce roman-là, peut-être que ce sera avec un autre, mais que cet autre te permettra, enfin, voilà, après, faut pas que ça, enfin, faut pas le voir de manière, totalement négative, dans le sens où enfin, je pense pas qu'il faut, enfin, ça serait dommage que ces mauvaises expériences-là conditionnent tout le reste. Parce que c'est eux, en fait, qui t'ont amené de mauvaises expériences, et c'est leur faute à eux, pas à toi et ton roman.
Ouais, ben, je suis d'accord dans un sens, parce que je voudrais pas non plus rester dans cet état plutôt négatif pour toujours. Je pense pas que ça va être le cas. Pour l'instant, c'est difficile, mais je pense
Oui,
que
ben...
dans un futur plus ou moins proche, on verra. Je vais m'en remettre.
Oui, ben après,
J'espère.
que ça prenne du temps, c'est normal aussi. Voilà, c'est comme tout, hein. C'est comme toute mauvaise expérience, tu peux pas rebondir du jour au lendemain. Puis après, on a tous des personnalités différentes aussi. Mais ton roman, il a du potentiel. Je veux dire, à un moment donné, il me semble bien que tu avais parlé dans un de tes podcasts, d'une maison d'édition qui t'avait contacté pour le lire. Alors, ils l'ont peut-être refusé derrière, mais ça veut dire quand même qu'il a intéressé. Donc, à partir de là, il y a quand même des choses. Donc, je pense qu'il ne faut pas que enfin, bon, surtout cette dernière mauvaise expérience, voilà, qu'elle conditionne tout le reste. Ça serait leur donner raison à eux. Je
C'est
suis
la
contre.
sagesse et l'expérience qui parlent, j'adore.
Oui. Merci pour ton pep talk. Ensuite, pour continuer dans le rapport à l'étape des soumissions, je voulais savoir, selon vous, qu'est-ce qui affecte votre rapport aux soumissions et qu'est-ce qui l'a rendu comme ça?
Donc, alors, qu'est-ce qui m'a fait... Est-ce que vous pouvez m'expliquer cette question? J'ai un petit problème.
Oui, mais en gros, je peux te donner mon exemple. Donc,
Oui, c'est bien.
moi, ma première soumission, c'était à une ME qui m'a demandé le manuscrit. Donc, je l'ai vécu vraiment différemment de mes autres soumissions. C'est-à-dire que je savais aussi que c'était une ME rapide. Donc, j'avais comme vraiment hâte de recevoir la réponse et je me disais ça pourrait être à tout moment et j'étais super impatiente, j'y pensais constamment. Mais là, mes autres soumissions, j'y pense presque pas parce que je sais que c'est pas des maisons d'édition qui attendaient nécessairement mon roman. Et surtout, ben, je sais que ça peut prendre 6 mois. Donc, j'y pense plus vraiment. Donc, ça, ce serait pour mon exemple. C'est un truc qui a affecté mon rapport avec une maison d'édition, mais c'est sûr que ça diffère d'un auteur à un autre.
En fait, alors c'est intéressant du coup, c'est bien que tu m'aies donné ton exemple. Comme toi, on va dire que j'ai pris du recul déjà vis-à-vis des envois, vis-à-vis de ce rapport de base au fait d'envoyer des textes et à tout l'espoir que j'y mettais derrière. Bon, déjà parce que j'ai quand même eu la chance de publier des romans, donc j'ai quand même un travail déjà qui est engagé de ce côté-là. Et pour les autres romans, il y en a effectivement où, en fonction du délai et de l'attente, on sait que de toute façon, ça sert à rien de regarder ses mails toutes les heures. Bon, ça ne m'empêche pas de les regarder tous les jours, mais pas toutes les heures. Et il y a certaines maisons d'édition qui, en effet, vont répondre assez rapidement. Donc, notamment sur celle-ci où je sais que j'y ai mis un peu plus d'espoir, c'est vrai que je vais avoir de l'attente et bah, justement cet espoir qu'on met dans une réponse positive. Il y en a certaines où tu parlais juste avant du fait que bah, il y en a qui t'envoient des maisons d'édition en te disant que ça ne marchera pas, pardon, des romans, pas des maisons d'édition, en te disant que ça ne fonctionnera pas. J'avoue qu'il y a certaines maisons, j'ai envoyé le texte, histoire de l'avoir dans ma liste, mais j'y crois pas spécialement. Je vais pas citer de nom de maisons d'édition, mais il y en a certaines, je sais très bien, enfin j'ai déjà envoyé plein de romans chez eux, je sais très bien que la plupart du temps, je n'aurai aucune réponse. Donc, j'avoue que ceux-là, j'en attends pas grand-chose. Après, il y en a, ben oui, dans lesquels je mets beaucoup plus d'espoir, notamment parce qu'aujourd'hui, les maisons d'édition avec lesquelles j'ai publié, bon, alors mes premiers romans historiques sont distribués en librairie, mais dans les faits, ils font pas très bien leur travail, donc je ne les trouve jamais en librairie. Et la dernière maison d'édition n'est pas distribuée en librairie. Alors c'est pas du tout un problème pour moi parce que j'y ai gagné énormément en rapport humain et avec une vraie relation super avec les éditeurs. Mais c'est vrai que bah, il y a certaines maisons d'édition à qui j'envoie un texte, j'ai de l'espoir parce que je me dis c'est quand même des grosses maisons d'édition, elles sont quand même distribuées en librairie et ça serait quand même chouette. Voilà. Donc il y en a à qui effectivement j'attends peut-être plus que d'autres. J'espère avoir répondu comme il faut à la question, parce que je suis pas sûre d'être.
Oui, t'inquiète, c'est une très bonne réponse.
Et du coup, de mon côté, Je pense que ce qui a joué, c'est les délais de réponse et le nombre de refus. En soi, j'avais conscience, je savais en envoyant même mes premiers manuscrits, enfin, en faisant mes premiers envois plutôt, que les délais étaient longs et qu'il y avait beaucoup de refus. Mais il y a une différence, je pense, comme toujours, entre le savoir et l'expérimenter. Et du coup, moi, j'ai vraiment compris que c'était pas sain, en fait, de placer tous ses espoirs dans un seul envoi. Parce qu'en fait, du coup, on se fait énormément d'attentes. Et puis, en plus de ça, on a l'impression que c'est ça ou rien. Alors qu'en fait, honnêtement, les chances sont très maigres. Je crois que... Enfin, je sais pas si c'est la même stat pour toutes les maisons d'édition. Mais moi, celle que j'ai entendue, c'était qu'il y avait 5 à 10% de manuscrits qui étaient retenus par les maisons d'édition parmi tout ce qu'ils reçoivent. Donc, voilà, objectivement, on peut pas se dire... celle-ci, ce sera la bonne. On peut se dire, celle-ci, j'espère que ce sera la bonne, mais je vais m'assurer en envoyant à d'autres maisons d'édition, etc. Donc ça a beaucoup joué d'apprendre, en fait, organiquement ça. Et après, donc c'était Caroline qui disait ça tout à l'heure, et je vais le rejoindre dans cette question. Moi, ce qui m'a énormément... ce qui a énormément influencé mon rapport à l'édition, ça a été de ne plus... Enfin, grâce à Instagram, déjà... Et parce que sur Instagram, du coup, il y a la capitalisation d'expérience, le partage de savoir, etc. Et aussi grâce au fait que j'ai commencé à physiquement voir le monde du livre, donc aller à des salons, aller à des dédicaces, à des rencontres, etc. En fait, ça a désacralisé le monde de l'édition pour moi, parce que pour moi, c'était une espèce d'entité un peu générale, genre l'édition. et je voyais ça un petit peu comme un truc, une espèce de bulle comme ça que j'espérais un jour toucher du doigt. Alors que maintenant, comme tu disais, Caroline, je sais que c'est un corps de métier comme un autre. Et en fait, moi, j'arrive avec mes manuscrits et j'arrive comme si j'allais passer un entretien d'embauche, quoi. Pour moi, c'est vraiment la métaphore qui m'a le plus aidée, en fait, dans mon rapport à l'édition. Voilà.
Je suis un peu d'accord avec ça, parce que moi, j'ai commencé en faisant très peu... Enfin, j'ai fait une première salve d'envoi en envoyant à 4 maisons d'édition seulement. C'est un peu cette idée de... je vais y aller sur celles qui ont vraiment ma préférence et après, j'aviserai au fur et à mesure. Et ça n'a pas forcément porté ses fruits, on va dire. Et ça a été un peu compliqué parce qu'après, il a fallu me relancer en me disant « j'y crois toujours, j'ai quand même envie d'essayer. Où est-ce que j'essaye ?» Comment est-ce que je vais me sentir par rapport à ça? Parce que c'est des maisons avec qui j'aimerais bosser, c'est pas la question, mais disons que c'était pas les petits coups de cœur que j'avais en tête pour ce projet-là. Et du coup, ça m'a un peu donné l'impression de, entre guillemets, de me vendre au plus offrant. Je déteste cette expression, mais j'avais un peu l'impression d'aller bouffer à tous les râteliers. Hop, une autre expression bien pourrie. Parce que j'avais cette idée de, à la base, j'y suis allée humainement au coup de cœur parce que j'aimais trop la ligne édito, parce que j'avais déjà des contacts avec certains membres de l'équipe, ce genre de choses. Du coup, il y avait un rapport vachement humain. Et après, j'ai fait une deuxième salve d'envoi où je me suis dit « Ok, je vais quand même essayer parce que j'aime bien l'idée de l'entretien d'embauche, en fait. Genre, si j'essaye pas, je saurai jamais ce que ça va donner. » Mais bref, je me suis dit que j'allais quand même essayer parce que quand on n'essaye pas, on peut pas savoir si ça fonctionne ou pas. C'était un peu l'idée. Et en fait, j'ai fait une deuxième salve d'envoi en janvier où vraiment, j'ai envoyé à d'autres maisons avec qui j'avais envie de bosser, mais... Ouais, j'avais vraiment l'impression d'être rentrée dans un circuit un peu genre capitaliste. Je me reconnaissais pas là-dedans parce que je savais pas à qui j'envoyais. C'était juste une entreprise, c'était pas forcément un individu derrière. Et ça m'a un peu fait bizarre. D'un côté, je pense que ça a désacralisé le fait d'envoyer parce que j'étais là, franchement, j'envoie mais j'ai pas l'impression que la personne derrière, elle va me juger. Et si elle me juge, je la connais pas donc je m'en fous. Alors que sur d'autres maisons, je connaissais un peu les gens donc j'étais là, me jugez pas parce que je vous aime bien. Tu vois, enfin... Donc c'est un peu particulier, je pense que ça m'a aidé à prendre du recul là-dessus et à me dire t'es pas en train de jouer ta vie sur ce texte, genre le plus tu l'envoies entre guillemets, le mieux c'est, même si on s'entend, il faut quand même checker certains trucs, certaines lignes d'édito, certaines, enfin ça sert à rien d'envoyer un roman de fiction à quelqu'un qui fait du pratique par exemple, mais je me suis dit autant le tenter et pas trop le sacraliser parce que j'ai attendu 8 mois pour 4 réponses dont 2 ne sont jamais venues quoi, donc je suis un peu c'est bon les gars, là on va plus y aller à la préférence, c'est aussi une industrie, et même si je vais avoir mes maisons en coup de cœur et que je continuerai à prier pour que certaines maisons veuillent bosser avec moi plus que d'autres, je vais pas non plus... Je pense que j'ai pas envie de me relancer en fait dans l'attente de 8 mois pour avoir pas de réponse ou moitié de réponse et pas avancer de mon côté. Enfin, je sais pas trop comment l'exprimer autrement, mais c'est un peu confus, mais c'est l'idée.
Bah, en fait, c'est marrant parce que dans toutes les réponses qu'on a eues, ça me donne l'impression que c'est à partir du moment où on a considéré ça comme, effectivement, tu disais, Lumina, un entretien d'embauche, en fait, on l'a désacralisé, l'image de l'édition, que tu vois ça comme un corps de métier. Ou que tu vois ça, enfin je pense qu'il y a aussi cette image d'avant de t'envoies un texte, l'éditeur te choisit, tu es l'être élu parmi une centaine de personnes, et maintenant le fait de graviter dans un milieu où on voit aussi d'autres personnes se faire publier, tu prends ça d'une manière qui est un peu différente, qui est aussi le, bah l'éditeur oui certes, toi t'as quelque chose à y gagner, mais l'éditeur aussi s'il publie, donc du coup t'es dans un rapport qui est un peu différent, qui est pas il reste un peu hiérarchique, mais qui est plus dans la collaboration, donc je pense que effectivement, quand tu dis, tu t'envoies à plusieurs maisons, tu vois ça de manière un peu plus différente que juste, oh, c'est eux que je veux, l'être sacré là que je dois toucher, même si on a tous des maisons d'édition qu'on voudrait en priorité. Enfin, je pense.
Ouais, mais tu vois, paradoxalement, je me dis, dans le futur, j'aimerais bien ne viser que les maisons avec qui j'ai vraiment envie de travailler, ouais. Et juste pas envoyer aux autres en fait. Mais je pense que je suis pas au stade où je suis encore, enfin déjà où j'ai suffisamment de carrière derrière moi et où je suis suffisamment confiante en mes projets pour savoir que si j'envoie à telle personne, ça va les intéresser pour de vrai, tu vois.
Mmh. Ouais, oui.
Mais j'ai envie d'ajouter une nuance peut-être. J'ai entendu beaucoup d'auteurs dire qu'au départ, ils voulaient X maison d'édition, une grosse maison d'édition par exemple. Et finalement, ils se sont retrouvés à travailler avec une ME qui était moins prioritaire dans leur liste. Et finalement, ils n'ont pas du tout envie de partir de cette ME-là parce que non seulement ils ont une bonne expérience avec cette ME, mais ils entendent des choses sur d'autres ME et ils se rendent compte qu'ils ont en fait, ils ont en fait ce qu'ils voulaient et qu'ailleurs, l'herbe n'est pas forcément plus verte. Donc, je trouve ça quand même intéressant aussi comme vision, et voilà.
Ouais, carrément. En vrai, moi, je pense que le truc qui est un peu marrant, c'est que dans les ME qui sont moins prioritaires, moi, j'ai beaucoup de grosses maisons ou de moyennes... Enfin, en fait, j'ai quasiment que des grosses maisons, entre guillemets, dans les ME à qui j'ai envoyé, mais qui sont pas prioritaires. Et du coup, j'avoue que, genre, si on me disait oui sur ces trucs-là, je serais quand même contente parce qu'il y a plein d'avantages. Mais dans les maisons coup de cœur à qui j'ai vraiment envoyé parce que je voulais bosser, il y a plus de moyennes entreprises parce que le contact humain est vachement meilleur. Donc je pense que ça dépend aussi comment on catégorise nos envies de publication et du coup, quelle maison on va mettre au-dessus de laquelle, tu vois, enfin, dans notre liste.
Mais en fait, après, je pense que... Enfin, après, moi, je raisonne peut-être différemment parce que j'ai beaucoup de textes. Mais tu vois, il y en a certains de textes à qui... où j'estime, alors peut-être à tort, hein, où j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un potentiel large, donc où j'espère un petit peu avoir, alors quand j'entends grosse maison, j'entends plus gros circuit de distribution, plus que grosse maison dans ce sens-là, mais où éventuellement il pourrait y avoir quand même une diffusion assez large, parce qu'après je suis pas, enfin moi je suis publiée chez des maisons d'édition qui sont pas en librairie, par exemple, ça ne me gêne absolument pas, pour certains textes, et pour d'autres, avant en tout cas de leur envoyer à eux, j'aimerais tester d'autres, tu vois, histoire de... Mais après, l'important, comme tu dis, des fois, le fait d'être dans une maison d'édition moyenne ou petite, t'as aussi un contact humain, un rapport qui est de l'ordre du qualitatif au quantitatif. C'est pas parce que t'es dans un gros groupe qui va mieux défendre ton livre, voire parfois, des fois, au contraire, parce qu'ils sont noyés sous d'autres publications. Donc après, c'est un choix, effectivement, à... C'est pas, enfin, d'être dans une grosse maison d'édition t'apportera pas forcément mieux que d'être dans un petit groupe qui va mettre en avant ton livre. Enfin, tu vois, là, par exemple, moi, le roman que j'ai publié chez Imaginary Edge, que j'ai bien aimé, c'est qu'il disait, on publie 12 livres par an, un par mois, et alors à leur échelle, hein, après, évidemment, hein, ça reste pas un énorme groupe éditorial, mais il disait à leur échelle, voilà, ils consacrent un mois à l'auteur, à sa sortie, dans un but plus qualitatif que quantitatif, tu vois. Et ça, j'avais bien aimé le discours.
Ouais, ben c'est exactement ça. Puis, un truc que je trouve intéressant dans ta réponse par rapport au nombre de romans à soumettre, Je pense aussi que ça affecte inévitablement notre rapport aux soumissions, parce que si t'en as comme 50 à soumettre, tu mets pas tous tes œufs, dans le même panier. Alors que de mon côté, moi j'ai passé comme un an et demi sur mon immense roman, et ben c'est juste lui là que j'ai comme option à faire publier pour le moment. Donc je mets beaucoup d'espoir dessus, j'ai beaucoup d'attentes pour lui aussi. Donc je pense que ça joue aussi.
Oui, et d'ailleurs j'avais écouté, c'est Maëlle de Sarre qui avait été interviewée dans le podcast de Margot de Seine. C'était intéressant sa réponse, parce qu'elle disait qu'à la base elle a une très bonne relation avec Rajo, et qu'en fait si elle est partie, enfin elle n'est pas partie d'ailleurs, si elle publie aussi aux éditions Slalom, c'était pas dans le but d'être contre Rajo, c'était qu'elle leur disait moi j'ai d'autres textes et en fait vous n'irez pas à mon rythme. Donc à un moment donné, enfin, faut que je me diversifie et que je diversifie avec d'autres éditeurs, tout en étant transparent et en expliquant ce qu'elle faisait. Et moi, effectivement, tu vois, si tu prends, j'ai beaucoup de romans. Donc en fait, le problème, c'est que je pense que même, alors en admettant, tiens, toutes les maisons d'édition me diraient oui. Enfin, non, pas toutes les maisons me diraient oui, n'exagérons pas. Mais j'ai beaucoup de textes, donc si jamais en fait je voulais en publier 2-3 dans la même maison, ça ne marcherait pas. Enfin, je pourrais, mais pas dans l'année, ce qui est évident, c'est normal aussi. Mais du coup, forcément, t'es obligé après d'envoyer à d'autres quand t'as des textes différents, de différents genres, de différents âges. Alors effectivement, quand t'en as 15, c'est un peu différent parce que t'as qu'une tranche d'âge et qu'un type de genre de récit. Donc forcément, tu cibles que certaines maisons d'édition.
Ouais, il y a ça aussi, effectivement. Ensuite, je voulais vous demander si vous aviez des astuces qui vous aide à mieux vivre les soumissions, parce qu'on est là aussi pour aider les gens. On espère, en tout cas.
Oui, alors moi, l'astuce, alors elle tient en 3 mots que j'ai écrit sur mon document. J'ai marqué « écrire d'autres romans ». Mais ça, c'est mon astuce à moi, c'est que comme je ne supporte pas l'attente et que je suis quelqu'un de très, très, très impatient, si je n'écris pas d'autres romans, j'envoie des mails où je regarde mes mails toutes les 3 minutes. Donc du coup, je me concentre sur un autre projet pour ne pas passer mon temps à avoir de l'espoir sur le dernier projet. Voilà. Mm-hmm. Donc ça, c'est, on va dire, une astuce de se focaliser sur autre chose. Mais de manière générale, moi, je me focalise toujours sur d'autres choses, peu importe ce que c'est dans la vie. Mais donc ça, et j'ai envie de dire ne pas regarder ses mails toutes les 3 minutes, mais maintenant, bon, qui suis-je pour dire ça alors que je le fais?
Ouais, je dirais que se focaliser sur autre chose, c'est une bonne technique. Et en fait, bon, c'est un peu, je trouve que ça a un côté un peu triste, mais du coup, moi, en réfléchissant à l'astuce que je pouvais donner, ça rejoint un petit peu tout, enfin ça conclut un petit peu tout ce qu'on a dit, c'est que en fait il faut s'obliger à prendre la chose avec détachement, je pense, parce que en repensant à comment moi je prenais les soumissions avant et comment certaines personnes que je suis sur les réseaux, comment elles sont quand elles soumettent leur premier roman et tout, et c'est un moment incroyable, etc. Et surtout, elles mettent énormément d'espoir, et voilà, c'est un petit peu comme si la soumission, elle allait changer le cours de sa vie, etc. Alors qu'en fait, non, ça va déboucher sur de la longue attente et beaucoup d'incertitudes, etc. Donc, il faut le prendre pour ce que c'est. Enfin, il faut s'autoriser à être un peu content quand même, parce que ça reste déjà un accomplissement et ça reste un moment un peu spécial aussi quand même. Mais je pense que c'est important de se dire, une soumission, c'est vraiment juste un mail qu'on a envoyé, quoi. Genre, on a juste appuyé sur un bouton et après, on va aller mater une série. Enfin, genre, c'est pas, la vie va pas changer, quoi.
Ouais, carrément. Par rapport au truc de désacraliser un peu le truc, c'est exactement ça, en fait. Enfin, trouver un espèce de recul émotionnel, mais... Genre là, comme on le dit, ça a l'air facile, mais genre, enfin, Camilla, je sais qu'on en avait un peu discuté, mais moi, j'ai tourné en boucle sur ma première salve de soumission pendant 8 mois. Parce qu'à ce moment-là, j'écrivais plus trop parce que j'étais en burn-out en plus, donc genre vraiment hyper bonne idée de cumuler les deux, c'était un plaisir. Donc j'écrivais pas trop, j'avais du mal à me relancer dans mon prochain projet. En plus, j'étais en freelance et je travaillais dans l'édition. Et j'étais sur Instagram où je parlais d'écriture et où j'étais dans une communauté d'écriture avec plein de gens incroyables. Et du coup, genre, mes journées se résumaient à penser écrire, livre, édition. Et en fait, ça m'a complètement, genre, flingué la tête. Et j'ai l'impression de trouver ce recul et d'être plus sereine par rapport à mes soumissions que maintenant que je suis en train de prendre un petit peu de recul par rapport à ma consommation sur Instagram, faire un travail sur moi aussi, d'arrêter de paniquer parce que j'ai pas de réponse ou parce que je suis pas encore publiée et que j'approche des 30 ans, genre c'est bon, ça suffit. Et aussi parce que je suis dans une démarche de retrouver un travail salarié potentiellement genre hors de l'édition à proprement parler, enfin... Bon, je dis ça, genre, je suis libraire à la base, donc... voilà, c'est complètement dans l'édition, mais je veux dire, c'est pas autant axé sur la publication et ce genre de choses. Donc, j'essaie de me détacher du milieu de manière générale pour un peu mieux le vivre, parce que le fait d'être en freelance constamment chez moi, à penser aux mêmes choses, ça fait que moi, j'ai très très mal vécu les premiers mois de mes soumissions, enfin, les 8 premiers mois, donc c'est quand même long. Genre, là, je me détache et ça fait que depuis début janvier, je suis là. J'ai fait de nouveaux envois et vraiment je n'y pense pas. Enfin, je reçois un mail si je reçois un mail, j'en reçois pas si j'en reçois pas. Si en juin j'ai pas de réponse, bah tant pis, j'aurai pas de réponse. Enfin, genre ça va mieux, mais ça a mis du temps quoi.
C'est une belle philosophie, moi je trouve.
C'est... Ouais. Puis aussi, bah, en fait pour toi, si je comprends bien, c'est vraiment un travail général sur ta vie et ce qui entoure l'écriture.
Ouais, complètement. Parce qu'en fait, genre. Il y a un peu l'aspect de, pour plein de gens, l'écriture, ça va être une partie de leur vie. Et moi, l'année dernière, l'écriture, c'est devenu ma vie entière, en fait. Si j'avais pas ça, j'avais plus rien à côté, tu vois. Et c'est pas du tout une bonne chose, je trouve. Enfin, pour moi, en tout cas.
Ouais, parce que c'est un peu... Ben, c'est difficile, dans un sens, parce que tous tes espoirs, toutes tes attentes, tous tes rêves sont liés à ça. Donc, tu te dis, ben, pas toi, mais en général, on se dit... Si ça marche pas, les soumissions, ben j'ai comme rien d'autre. Genre, j'ai pas de but, j'ai pas de truc que je veux autant que ça, j'ai l'impression.
C'est ça, et puis tu t'investis tellement dans l'écriture, pour toi à la base, mais aussi parce que t'aurais envie qu'on te lise et qu'on découvre un peu ce que t'as fait, tu vois. Et quand il y a rien qui se concrétise derrière, genre, c'est un peu, bah en fait, tout ce travail pour rien, entre guillemets, c'est faux, c'est jamais rien. On apprend toujours plein de trucs et c'est hyper enrichissant personnellement. Mais moi, j'étais dans un stade où j'étais tellement, genre, dans un truc de compétition avec moi-même, de « il faut que je prouve aux gens que je suis capable de faire, il faut que je me prouve que je suis capable de le faire », que, genre, c'est vraiment parti en step. Enfin, ouais. Genre, dans ma tête, c'était n'importe quoi.
Bah après aussi, parce que comme tu dis, toi, t'as ton métier qui est lié à ta passion. Donc, c'est... Enfin, comment dire... Enfin, comme tu dis, tu es libraire, enfin, à la base, tu travailles dans l'édition, tu écris. Enfin, ce qui fait que, du coup, tu... Bah, ta vie ne tourne forcément qu'autour de ça. Donc, donc c'est compliqué ensuite de t'en détacher complètement, plus des réseaux sociaux qui induisent une pression derrière, parce que même si on vit tous de très belles choses avec les réseaux sociaux, on ne peut pas s'empêcher de se comparer aux autres. Et comme tu disais, de prendre du recul avec les réseaux sociaux aussi, ça te permet des fois de te dire « Ah, mais ça va en fait dans la vraie vie ?» C'est... Enfin, je pense que cette pression aussi, elle est induite par le fait qu'on voit aussi tous les gens faire... Enfin, alors, tous les gens réussir, j'exagère, parce qu'on a l'impression que tous les gens réussissent sur, quand on suit des gens. Dans les faits, c'est une faible proportion. Mais quand on voit d'autres signer des contrats, on est là, ah ouais, mais pourquoi eux et pas moi? Et du coup, c'est un peu, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, moi? Pourquoi même pas? Pourquoi pas?
Ouais.
C'est compliqué de gérer tout ça. Oui, j'exagère, mais c'est...
Non, mais si, c'est un peu ça. Et moi, j'avais tout l'aspect un peu bête, c'est horrible ce que je veux dire, mais à l'époque, quand moi, je taffais dans l'édition, bon, du coup, c'était pré-Covid, donc on n'avait pas les... Enfin, on mettait du temps à répondre, mais on n'avait pas les temps d'attente énormes qu'on peut avoir maintenant, on n'avait pas les ghostages à balles comme on peut avoir maintenant. Les personnes à qui vraiment on répondait pas, c'est parce que le texte était tellement amateur encore que, limite, des fois, on pensait que c'était une blague et qu'on nous l'a envoyé. Enfin, moi, j'adore cette anecdote, mais une fois, j'ai reçu une fanfiction sur l'équipe de France de foot, en soumission. J'ai répondu parce que c'était la politique de l'entreprise dans laquelle je travaillais, mais vraiment, je me suis dit, c'est une blague, en fait. Enfin, la personne, soit vraiment elle nous troll, soit elle n'a pas fait exprès d'envoyer, tu vois. Et du coup, bah ouais, mais c'était adorable, tu vois. Et en fait, les seules fois où vraiment on a ghosté, c'est parce que ça ne correspondait vraiment pas et on se disait, bah, on se fout de nous, en fait. C'était un troll, quoi. Et là, maintenant, les gens... ghost parce qu'il y a tellement de réponses, enfin il y a tellement d'envois qu'en fait ils peuvent pas répondre. Mais à l'époque nous on ghostait parce que les manuscrits n'étaient pas bons. Et du coup quand moi on me ghost je me dis enfin en fait ce que j'ai fait est-ce que c'est nul au point de pas mériter une réponse tu vois. Et ça, c'est pareil, du coup, parce qu'en fait, je prends mon expérience pro et je la cale sur ce qui m'arrive maintenant dans l'écriture et je me dis, bah, en fait, je suis vraiment nulle, tu vois. Et c'est pas du tout ce que ça veut dire, mais émotionnellement, le temps de se détacher de ça, il m'a fallu 8 mois. C'est long, quand même, 8 mois.
Mais on devient vite parano.
C'est compliqué de se détacher totalement de ça. Comme tu dis, Camilla, on devient parano. En fait, on a l'impression que c'est nous le problème. Et quand une maison d'édition ne répond pas, parce que c'est un peu comme si tu parles à quelqu'un dans la rue et qu'elle ne se retourne pas, forcément, tu te dis pas que c'est parce qu'elle a des stimuli autour qu'elle est focalisée sur autre chose. Tu te dis, c'est moi le problème. Alors que, comme tu dis, Morgane aussi, c'est que ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'aujourd'hui, certes, il doit rester des mauvais textes parmi les envois, mais il y a aussi des très bons textes et beaucoup qui font pas d'erreur justement d'envoi, mais ce qui fait qu'ils sont tellement submergés partout, ça reste des entreprises qui peuvent. J'aime pas le terme entreprise pour une maison d'édition, mais c'est un fait, c'est une entreprise. Donc en fait, il faut aussi qu'ils fassent un choix. Et ce qui est compliqué, je trouve aussi, c'est que je sais que la personne que tu es n'est pas censée conditionner ce que tu écris et le fait que tu sois publié. Et puis que le fait d'avoir une communauté ou le fait d'avoir des réseaux et ce genre de choses, c'est un travail qui prend un temps fou. Donc, les personnes qui ont la chance de bénéficier d'une communauté, c'est pas arrivé du jour au lendemain, tout seul. Mais en même temps, du coup, tu as cette espèce des fois d'élan de frustration de te dire est-ce que lui, il est passé en fait son texte avant le mien parce que la maison d'édition s'est dit le texte est bon, plus potentiel de com déjà assuré, alors que c'était pas le cas de l'autre, tu vois. Après, tu te fais des nœuds au cerveau, hein. Ça se trouve, c'est pas du tout ça. Hein.
On se fait des films, genre est-ce que j'ai dit un truc qui les a dérangés alors que on se fait pas espionner 24 heures sur 24 non plus. Mais. On se fait vraiment tellement de films, tellement d'idées, alors que c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas eu le temps, comme on dit.
C'est ça.
Moi, ce que je trouve super intéressant dans ce que tu as dit, Morgane, c'est le contraste entre comment c'était il y a... Alors, je ne sais pas quand est-ce que tu travaillais dans le monde de l'édition, mais il y a quelques années, quoi, par rapport à aujourd'hui, où il y a eu un boom de gens qui écrivent, etc. Moi, ce qui m'a vraiment frappée, ça a été de comprendre en fait que dans les maisons d'édition, y compris dans les grosses ME, il y a des équipes édito qui sont souvent rikiki. Genre quand je dis rikiki, genre dans une grosse ME, il y a parfois une personne à l'édition et qui doit traiter du coup des centaines de manuscrits par an. Et alors déjà, moi je me dis que c'est de la maltraitance au travail et qu'il y a vraiment un gros problème RH en interne. Mais du coup, ça explique aussi énormément les ghostings et tout. Et en fait, j'ai l'impression, enfin, moi, ça me donne l'impression que du coup, pour l'instant, le monde de l'édition, enfin, les maisons d'édition, n'ont pas suivi le boom, n'ont pas réussi à raccrocher les wagons avec le boom de gens qui écrivent. Peut-être parce qu'aussi, ils n'arrivent pas à rentrer dans leurs frais, sinon. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé à relativiser sur pourquoi on ne répond pas aussi. Et je voulais en profiter aussi pour parler du fait que je partage énormément ta difficulté à accepter, enfin votre difficulté, parce que je crois que vous êtes plusieurs à l'avoir dit, à accepter que notre projet de professionnalisation dans l'écriture ne dépend pas que de nous, et qu'en fait nous on peut que faire une partie du travail et après, en fait, moi, j'ai l'impression que, enfin, pour moi, c'est le plus dur à gérer. C'est vraiment de me dire, moi, je voudrais être pro d'écriture, je voudrais gagner ma vie avec l'écriture et je me donne tous les moyens que je peux et malgré tout, ça ne suffit pas parce que ça va être quelqu'un que je ne connais pas, qui m'a jamais rencontré potentiellement ou bien qui m'a vu une fois dans sa life. Qui va décider si oui ou non je peux passer ce fameux step de publier mes livres et gagner de l'argent avec, même si on sait que c'est à taux très très bas. Et ça, c'est le plus dur pour moi à vivre. Et c'est terrible parce qu'on était dans la partie astuces pour mieux s'en sortir, donc je suis navrée d'avoir dit mes difficultés à ce moment-là. Mais n'hésitez pas dans les commentaires après à dire ce que vous en pensez.
C'est bien rattrapé.
écoute, moi, j'ai pas d'astuce. Je suis encore un bébé sous mission. je dis n'importe quoi, mon Dieu. Non, mais dans le sens que j'ai juste fait un premier renvoi avec quelques soumissions et ça fait seulement 4 mois, donc j'ai juste 3 refus. Donc, j'ai pas vécu grand-chose pour l'instant, à part les dingueries que j'ai eues, mais bref. j'ai pas grand-chose de... Ben, j'ai pas grande astuce à donner. Donc, on peut passer à la prochaine question. Et ce serait... C'est quoi votre rapport actuel aux soumissions? Si, ben, en fait, on en a un petit peu parlé, tout le monde, ouais. En filé, on va dire, dans les différentes questions, mais est-ce que vous avez quelque chose à ajouter?
Alors moi, je dirais que je suis beaucoup plus détachée vis-à-vis des soumissions que je l'ai été ces dernières années et même ces derniers mois, mais ça, c'est ma résolution de 2024, c'est un peu comme Morgane. Je me suis dit, mais pourquoi en fait les réseaux sociaux me mettent une telle pression? Je vais me détacher. Alors, me détacher, je suis tous les jours sur les réseaux sociaux, mais je suis moins dans... Oh, je regarde les autres, je me dis, oh, il a ça et moi j'ai pas ça, pour essayer de mettre un peu plus de distance. Et de la même manière, je me suis rendu compte que j'ai fini l'année en étant à la fois très fatiguée et à la fois très, en fait, très en colère, mais sans trop savoir pourquoi. En colère un peu contre tout, je ne sais pas trop. Alors, c'est pas que dans l'édition, c'était aussi vis-à-vis de mon métier et tout ça, mais j'ai commencé à l'inverse l'année en me disant « Bon, on se calme, maintenant on est plus calme et détendu, c'est pas grave, au pire tu as un nom, c'est pas grave, ta vie ne s'arrête pas, il y aura d'autres opportunités. » Enfin, voilà, d'essayer d'avancer avec plus de recul et de détachement. Mais je pense que je peux aujourd'hui avoir ce discours-là parce que j'ai eu plein d'expériences derrière. Donc voilà, quand effectivement on débute, on peut pas... et puis encore une fois, je vous dis, c'est le détachement jusqu'à ma résolution, elle date de début janvier, hein, d'accord, on est mi-février, on en reparle à la fin de l'année pour faire le bilan. Mais pour le moment, ça va, j'ai l'impression d'être plus sereine là que je l'étais avant.
Tant mieux.
Bah moi pareil, je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit déjà, et ça rejoint aussi ce que tu dis Caroline, je suis comme toi beaucoup plus détachée qu'avant de mes soumissions. En fait, c'est au point que maintenant, si tu me demandes à quelle maison d'édition j'ai soumis quel manuscrit, je ne saurais pas te répondre. Je ne sais pas. Mais en fait, pour moi, c'est bien parce que ça fait la petite surprise. Je reçois le petit mail en mode « On a lu votre manuscrit, c'est non !» mais voilà, du coup, je pense que j'ai poussé vraiment à l'extrême le côté « Je ne vais pas m'apesantir dessus pour que ça me troupe à le crâne. » Et voilà où j'en suis. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en tout cas, voilà. Et puis, je voulais du coup revenir encore sur la métaphore de l'entretien d'embauche, parce que vraiment, moi, c'est le truc qui m'a le plus aidé. Étant actuellement en recherche d'emploi aussi, je suis vraiment sur 2 canaux en parallèle, même combat. Et voilà, du coup, je me dis, au même titre qu'un entretien d'embauche, c'est pas parce qu'on me dit non que c'est ma valeur qui est mise en cause, ou même mes capacités, en l'occurrence les capacités de mon manuscrit. C'est beaucoup plus une question de conjoncture en fait, souvent, ou même de parfois t'as mieux présenté qu'à un autre moment, et voilà, c'est la vie quoi.
La comparaison avec l'entretien d'embauche, elle est ouf quand même, parce que quand on te dit non pour un manuscrit et qu'on en sélectionne un autre, tu vas directement remettre toute ta vie en question et toute la valeur de ton manuscrit en question, alors que quand tu foires un entretien d'embauche, enfin qu'on te dit non après un entretien d'embauche et qu'on embauche quelqu'un d'autre, tu vas juste te dire oh, c'était pas le bon moment, ou genre oui, j'ai peut-être pas fait ça comme j'aurais dû, ou ouais, je me suis peut-être pas mis assez en avant, ou genre juste le poste me correspondait pas et ils l'ont vu et je peux pas leur en vouloir, tu vois. Genre, c'est... Alors qu'en vrai, c'est la même chose, genre, c'est comme tu dis, c'est juste une sorte de conjecture et c'est pas grave, enfin. Mais ouais, moi je pense que pareil, genre, enfin, pour le coup, moi j'ai l'impression qu'il y a vraiment eu un avant et après dans ma façon de faire mes soumissions entre. Je dis ça, mais Caroline, je suis pareil que toi, genre ça date de fin décembre, début janvier, donc je vais quand même me calmer, on en reparle dans quelques mois, mais pareil, il y a eu un avant-après dans la façon dont j'ai fait les choses et dans la vision que j'ai des choses. Je sais pas, genre comme je vous dis, j'aimerais vraiment tendre à juste envoyer aux maisons d'édition que j'aime vraiment et genre arriver à mieux cibler les gens, arriver à moins faire d'envois, arriver à moins me monter la tête sur le pourquoi du comment. J'ai déjà arrêté de consulter mes mails tous les jours en espérant, en ayant peur d'avoir un message et en espérant si fort d'en avoir un. J'ouvre mes mails, je suis là, un refus ? Ok, pas de refus, très bien. Genre, j'en suis au stade où vraiment je travaille à ce que ça me fasse plus rien et pour le moment ça fonctionne bien. J'ai reçu deux débuts depuis début de refus depuis début janvier, depuis ma nouvelle salve d'envoi. Je l'ai grave bien pris. Je suis choquée. Enfin, moi, la première, je suis là. Ah, oh, j'ai pas pleuré. Incroyable. Je me suis pas non plus remise en question et mon monde s'est pas effondré et ça fait du bien, en fait. Genre, je sais pas. Je suis détachée.
Bravo.
J'aime bien.
C'est super. Moi, j'en suis pas là pour l'instant. Mais je trouve ça super intéressant, vos réponses. En fait, toutes les trois, vous avez comme la résolution de vous détacher de tout ça pour mieux le vivre. Moi, c'est une de mes résolutions 2024 aussi. Pour l'instant, ça n'a pas été facile parce que tout mon mois de janvier, donc le premier mois de l'année, s'est super mal passé à cause de l'expérience négative dont on a parlé plus tôt. Mais je commence à aller un peu mieux. Et puis, j'essaie de ne pas mettre tous mes espoirs sur la traverse rêve et de me concentrer sur un nouveau texte qui m'emballe beaucoup, comme vous l'avez dit. Tous les conseils, en fait, que vous avez donnés à la question d'avant, j'ai trouvé ça super et je suis d'accord que c'est très aidant. Donc, si vous êtes dans le même cas que moi, ceux qui écoutaient l'épisode et que vous avez un peu du mal avec vos soumissions, ben, n'hésitez pas à tenter les conseils qui ont été donnés plus tôt. Alors, pour terminer sur une note positive, je voulais vous demander si vous aviez un mot encourageant pour les auteuristes en soumission actuellement. Autre chose que les soumissions, c'est la mort. Parce que ça, on le sait déjà.
Eh bien, pour rebondir sur ce que tout le monde a dit, les soumissions, surtout, ce n'est pas sacré, en fait. Je pense qu'on... Voilà, on sacralise beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde de l'édition, le fait d'envoyer son roman. Et comme disait Ludmilla ou Morgane, je ne sais plus, c'est un mail en fait, c'est un mail qu'on envoie. Bon, voilà, je pense qu'il faut le désacraliser pour arriver à le tourner peut-être d'une manière plus professionnelle ou en tout cas de ne pas y mettre tous ses espoirs parce que sinon on risque d'être très, 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 très impacté derrière si jamais c'est une réponse négative. Et se dire aussi que un non ne veut pas dire que son manuscrit est mauvais ou qu'on est une mauvaise personne. Parce que dans le monde d'aujourd'hui, fortement et très concurrentiel, des fois le manuscrit peut être bon, mais pas arrivé au bon moment aussi. Peut-être que aussi ça n'a tout simplement pas plu parce que ça reste de l'art, donc c'est subjectif. Et voilà, je m'arrêterai là.
Ok, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit, Caroline. C'est vrai qu'on n'a pas assez appuyé, je trouve, sur le fait que les retours de maisons d'édition étaient subjectifs parce que c'est des personnes derrière qui envoient les mails et qui lisent les manuscrits aussi. Et du coup, je reviendrai aussi sur le fait que les réponses, elles dépendent beaucoup du marché du moment et pas seulement de la qualité du texte. Et puis, comme Camilla et Caroline disaient, bon, ça peut être un peu frustrant, surtout si vous travaillez sur votre premier roman. Mais en vrai, si c'est pas le roman sur lequel vous travaillez en ce moment qui va être publié, ce sera peut-être le suivant ou celui d'après. Les auteuristes n'écrivent pas qu'un seul roman dans leur vie, le plus souvent. Et il en va de même pour la publication. Et puis sinon, on est ensemble. Hein, voilà, pour moi, c'est ça le plus grand mot encourageant, c'est « on est ensemble ».
J'ai envie de dire un truc hyper beau, et depuis tout à l'heure que t'as posé la question, Camilla, je suis là, ne le dis pas, ne le dis pas, ne le dis pas. Je pense que je vais le dire quand même. À un moment, il y avait une pub pour le loto, et le slogan, c'était genre 100% des gagnants ont joué. Et en fait, ça me fait un peu penser à ça, genre si on n'envoie pas et qu'on ne trouve pas le courage d'envoyer et d'essayer, ça peut pas déboucher sur un chouette truc. Et ça veut pas dire qu'on va pas jouer 15 000 fois avant sans que ça donne rien. Alors faites gaffe parce que genre dans le cadre des jeux d'argent, ce que je suis en train de dire, c'est pas ouf, ne vous endettez pas pour des jeux d'argent, on est d'accord avec ça, mais je pense que soumettre, ça coûte rien, ça se fait, et je pense que si on le tente pas, on peut pas vivre de bonnes aventures si on n'essaye pas, c'est un peu l'idée. Donc genre, faut soumettre, c'est cool, faut essayer de s'en détacher, c'est sûr, mais on écrit un peu l'histoire qu'on veut là-dessus. Je sais pas comment expliquer ça. C'est très mal dit. Mais en gros, genre, ça sert à rien de se comparer aux gens qui sont déjà publiés ou à leurs histoires de publication à eux. Il y a de plus en plus de gens sur les réseaux qui sont démarchés, qui ont eu des fois des maisons qui se sont un peu battues pour leurs œuvres et tout ça. Ça arrive à des gens et c'est trop bien. Si ça vous arrive pas à vous, vous êtes pas nul, en fait. Genre, chacun a son histoire, chacun a son parcours, et c'est aussi à nous d'écrire la nôtre. Et si vous avez envie de... C'est pas envie de, mais bref. Si vous avez l'impression que vous galérez, si vous avez envie de quelque chose qui vous arrive pas pour le moment, ça sera peut-être plus tard. Peut-être que ça n'arrivera jamais, mais peut-être que vous aurez d'autres rêves entre-temps et tout. Enfin, voilà, ça sert à rien, je pense. C'est un peu l'idée de moi à moi, de moi à vous, parce que c'est un truc avec lequel j'ai pas mal galéré cette année, mais ça sert à rien de regarder chez les autres en se disant « c'est à ça que ressemble le succès, et si j'ai pas ça, je suis moins bon que quelqu'un d'autre. » Genre, des fois, soumettre, c'est anticlimactique de ouf, et ça fonctionne quand même, et ça veut pas dire que c'est pas bien. Genre, il faut juste que quelqu'un me dise oui, en fait. C'est... On n'a pas besoin d'un truc en grande pompe, on n'a pas besoin d'une histoire qui fait rêver. Des fois, c'est le début du chemin, et après, il y aura d'autres trucs, et c'est ok. Je sais pas si ça fait sens, mais voilà.
C'est 100%. Très beau. Très beau.
Je plus sois totalement vos réponses et j'aimerais ajouter quelque chose. C'est justement un reel que je poste aujourd'hui même dans quelques minutes. Mais je voudrais rappeler que les auteurs qui n'osent pas parler de sujets négatifs comme les refus, l'attente des soumissions, les mauvaises expériences de ME, tout ça, c'est... La majorité des auteurs, en fait, qui n'osent pas parler de tout ça. Et c'est évidemment pas un reproche parce qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles on peut ne pas vouloir parler de tout ça. Mais ça donne évidemment l'impression que recevoir le oui tant attendu d'une maison d'édition, c'est super facile. Ça peut aussi donner l'impression qu'on est tout seul à galérer. Ça peut donner l'impression qu'on est un échec. Mais toutes ces pensées-là sont erronées. On a tous des refus de maison d'édition, parfois plus que ce qu'on pense, et on a tous galéré à un moment à écrire, on a tous expérimenté les doutes, la peur, le syndrome de l'imposteur, tout ça, et l'écriture, c'est une discipline qui a énormément de difficultés, donc voilà, je trouvais ça important de rappeler ça, parce que quand on regarde les réseaux sociaux, on a l'impression que tout le monde publie son premier roman, et que c'est super facile, qu'il n'y a pas eu de refus, mais en fait, c'est pas le cas. On voit beaucoup, beaucoup de success stories, mais c'est ce qui est le moins répandu dans la réalité. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire.
Mais tu as raison, effectivement. On a l'impression que tout le monde a son success story, alors qu'en fait, c'est quand tu reviens dans la vie réelle et que tu parles avec les gens, tu te rends compte que non.
C'est... Exact. Ouais, vraiment.
C'était le meilleur message de fin.
Ouais, très beau, très beau.
En tout cas, les filles, je vous remercie énormément d'être venues sur le podcast pour parler des soumissions avec moi. C'est un sujet que je trouvais important d'aborder parce que c'est une étape difficile qui a aussi son lot de difficultés. Et voilà, je trouvais ça important de désacraliser ça, justement. Et je pense qu'on a réussi. Ça a été super intéressant d'avoir vos expériences à toutes. Donc, merci beaucoup.
Ben, merci à toi pour l'invitation et puis pour ce sujet qui était effectivement fortement intéressant à aborder avec vous. J'étais très contente d'être avec vous cet après-midi, voilà, ou ce matin, pour pareil. Toi.
Tout pareil. Vraiment, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un grand honneur. Et décidément, parce que Morgane et Caroline, j'avais déjà fait un podcast avec vous deux. Donc là, c'est bon, je continue à cocher mes cases de podcast.
Mais ouais, merci beaucoup de désacraliser le sujet, Camilla.
Eh bien, c'est avec plaisir. Et puis, pour ceux qui écoutent le podcast, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous vous porterez bien et que ça se passera bien pour vos projets aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour soutenir le podcast, n'oublie pas de laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça aide à le faire connaître et surtout, ton interaction est une grande source de motivation pour moi. Tu peux me retrouver sur Instagram et toutes les plateformes citées dans les notes. J'y poste du contenu sur l'écriture, la motivation et la productivité. En attendant le prochain épisode, n'oublie pas de prendre du plaisir à écrire pour toi.